au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Bon mardi à tous, un menu fort intéressant encore une fois aujourd'hui. On parle avec Gabriel Giguère, qui est analyste senior à l'Institut économique de Montréal. On parle de nos urgences. Le maire Guillaume Tremblay de Mascouche présente son bilan annuel de son administration devant la Chambre de commerce des Moulins. On parle également à Eliane Neveu, directrice générale des Fêtes gourmandes, et Alexandre Turcotte, son porte-parole. Il y aura également le directeur général de l'organisme Récréo Nature, Michel Bourgard, qui nous parle de la base nautique de l'île annexe à Repentigny. Et l'entreprise Floratrac, le président Daniel Lirette et Hugo Dupuis nous parlent d'une nouvelle technologie et le commentaire de Jacques Plante. Bonne émission. Alors voilà, écoutez, parmi toutes les provinces canadiennes, c'est au Québec que les patients attendent le plus longtemps aux urgences. Et c'est une étude de l'Institut économique de Montréal. Et dans notre région, c'est pire qu'à bien des endroits au Québec. Écoutez, je vais être honnête avec vous, ça fait environ une quinzaine d'années que je fais de l'information dans Lanaudière. Et à l'époque, on parlait de pourcentage, et je me souviens, c'était 200, 210, 215, 230 %. Maintenant, on parle de temps, là, 7 heures à passer à l'urgence. Écoutez, François Morin a discuté avec Gabriel Giguère. Qui est-il? Il est analyste senior à l'Institut économique de Montréal.
Lanaudière PM. Santé.
Absolument. Je pense que c'est assez clair qu'au Québec, ça ne va pas très bien. Là, à partir des dernières données qu'on a reçues, ben, on constate déjà qu'à un an seulement, il y a eu une augmentation du temps typique d'attente aux urgences de 10 minutes pour atteindre 5h23 minutes. Donc concrètement, au Québec, le patient typique attend 5h23 minutes, ce qui est très, très long. Maintenant, vous l'avez dit, je pense que c'est clair, à Lanaudière, on se démarque en partie par le temps d'attente trop long. On parle maintenant d'un temps d'attente typique de 6h40 minutes quand on prend en considération, bien entendu, l'hôpital Pierre-Legardeur, mais également le centre hospitalier régional de Lanaudière à Saint-Charles-Borromée. Donc, on comprend qu'on attend davantage à Lanaudière qu'ailleurs au Québec.
Est-ce qu'on peut tenter une explication là, pour ce phénomène-là qui est vraiment pas là, à l'avantage des patients?
Bien sûr. Donc, c'est sûr que nous, on a regardé à l'échelle du Québec et ensuite du Canada. Donc, on ne s'est pas attardé sur chaque hôpital. Donc, il y a ça en préambule. Maintenant, il faut comprendre que Hôpital Pierre-Legardeur, c'est un gros hôpital, 7h et 11 minutes de temps typique d'attente, ce qui est très élevé. Maintenant, c'est sûr que quand on compare à d'autres hôpitaux, comme des hôpitaux à plus en région, comme à la Côte-Nord, comme sur l'Abitibi, ben, c'est des hôpitaux qui sont un petit peu plus petits, qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés. Donc, vous desservez moins de personnes, vous allez faire peut-être moins également de manœuvres qui sont, ou plutôt de traitements qui sont complexes. Donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, prévisible que les gros hôpitaux soient un petit peu plus longs, étant donné la complexité de ce qu'il y a à faire auprès des patients, mais également du volume. Donc, ça explique une partie. Maintenant, quand on regarde pour Pierre-Legardeur spécifiquement et qu'on compare cette année avec l'année dernière, je pense qu'il y a un élément qui est positif qu'il faut retenir spécifiquement pour cet hôpital-là, c'est qu'on est passé d'un temps médian, là, qu'on peut appeler un temps typique d'attente, de 7h53 à 7h11. Est-ce que c'est trop long? Absolument. C'est beaucoup trop long. Est-ce que c'est une amélioration? Je pense qu'il faut également le dire que c'est une amélioration, pardonnez-moi, de plus de 40 minutes quand même en une année.
Est-ce qu'on a des données pour le centre hospitalier régional de Lanaudière?
Absolument. Le centre hospitalier de Lanaudière s'est amélioré de 2 minutes. On est passé de 6h17 de temps d'attente typique pour un patient à 6h15. Donc, on voit qu'on s'est pas beaucoup amélioré. On reste néanmoins sous l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, on est un petit peu plus constant dans le temps d'attente. Donc, à cet égard, il n'y a pas de grande amélioration. Maintenant, je pense qu'un des éléments qu'on a regardé effectivement avec cette étude-là, c'est de se dire, quelle serait l'approche qui permettrait de réduire le temps d'attente? Parce qu'au final, faut le dire, ce sont les Québécois et les Québécoises qui en écopent. Quand on est rendu à 7 heures, là, on est presque à une journée de travail complète là, à attendre aux urgences. C'est très long. C'est inacceptable par ailleurs. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qu'on fait ailleurs dans le monde pour améliorer ces temps d'attente-là? Et l'un des éléments qui nous semblait franchement intéressant, bien, c'est les centres spécialisés en France. Essentiellement, ce sont des centres qui sont opérés et administrés par le privé par l'indépendant, mais qui est accessible de façon universelle. Et donc, ça permet de soigner quelque chose comme les infections, les fractures, de traiter les points de suture également, qui viendraient complémenter, donc qui viendraient s'inscrire en complémentarité avec les urgences au Québec. Donc, vous auriez des cas beaucoup plus graves aux urgences, mais d'autres cas qui ne nécessitent pas des urgences, là, mais qui pourraient être traités. Donc, ça viendrait désengorger et faciliter le traitement des patients au Québec et, bien entendu, des Lannaudois et des Lannaudoises.
Ce que vous venez de me dire là entre en droite ligne avec ce que le ministre Christian Dubé et même le réseau au grand complet souhaitaient, c'est-à-dire de confier des tâches à d'autres professionnels de la santé qu'à des médecins pour désengorger le système. On est loin d'être là.
Mais très loin d'être là. Je pense que effectivement, ça peut être lié à l'esprit de la chose, mais si on va une étape plus loin, de dire certes, d'autres professionnels peuvent faire certaines manœuvres qu'actuellement, ce ne sont que les médecins, mais de dire on peut permettre des établissements gérés de façon indépendante, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les urgences, pour traiter des cas qui seraient aux urgences, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'être là. Ce serait intéressant, ce serait complémentaire et au final, ça permettrait de tirer à la baisse le temps d'attente. Il faut quand même le rappeler, c'est une bonne chose pour l'hôpital Pierre-Legardeur, une diminution de 40 quelques minutes, mais ça reste beaucoup trop long, 7h15, pour les patients de la région. Je pense que c'est assez clair. Quand on va aux urgences à Pierre-Legardeur, là, on va se préparer son petit sac à dos avec sa bouteille d'eau, avec tout, parce qu'on le sait que c'est très, très long.
En terminant, cette étude-là sort au même moment ou en fait dans une période où il y a des compressions partout dans le réseau de la santé et des services sociaux, où on manque d'effectifs, où ça craque de partout. Est-ce qu'on a quand même espoir que ça pourrait influencer le gouvernement dans ses décisions?
Mais déjà, à la base, je pense qu'il est très important pour les décideurs politiques, que ce soit le gouvernement en place ou l'opposition et même plus largement l'ensemble de la population, d'avoir un regard qui est objectif sur la réalité, de dire voici les données, voici le vrai temps d'attente, parce que parfois, ben, on va aller une fois à l'hôpital, ça va être rapide ou ça va être très long, mais là, c'est vraiment, on retire toute l'émotion des données, c'est-à-dire, c'est quoi le portrait? Avec un bon portrait, on peut poser le bon diagnostic et par la suite, on peut avancer pour régler la problématique au Québec. J'espère qu'il y aura de l'écho politique parce que les chiffres, comme vous l'avez dit et comme nous l'avons dit dès le départ, sont relativement accablants dans la mesure où, à l'heure où on se parle, le temps d'attente typique aux urgences pour un patient québécois a augmenté de 1 heure en 5 ans. Donc oui, je parle de 10 minutes depuis l'année dernière, mais d'une heure en 5 ans, la trajectoire, elle n'est pas dans le bon sens. Il faut changer, il faut revenir. Là, on a l'impression que parfois, on appelle ça le mammouth, le système de santé. J'ai l'impression que c'est un Titanic. Puis là, il faut le tasser de sa trajectoire, mais c'est difficile, c'est long, mais c'est nécessaire pour les Québécois et les Québécoises.
Au retour de la pause, on parle avec le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 1er juin. Manuel Blais gagne 200 $ grâce à la ligne DN, une carte achetée au dépanneur Ultramar de Saint-Félix-de-Valois. Kevin Lefebvre de Radden, qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Servi Express, gagne aussi 200 $ avec la ligne DN. Carl Champagne de Joliette remporte 4 000 $ avec sa carte pleine achetée au dépanneur 350 de Notre-Dame-des-Prairies. Et Éric Brazo de Saint-Félix-de-Valois remporte 600 $ avec la deuxième chance grâce à une carte achetée à la Tabagie Saint-Félix. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. Toujours 5 000 $ à gagner avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. Chez tous nos dépositaires, la liste complète est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le mardi dès 16h, c'est Taco Tuesday à l'Échappée. Viens profiter d'un combo parfait, Taco Corona ou Tequila Corona. C'est ce qu'on appelle un accord culinaire parfait. 710 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, 450-394-1658.
Au cours des dernières années, des changements majeurs ont été apportés pour améliorer l'accès aux soins de santé. Par exemple, en donnant plus de pouvoir aux infirmières et aux pharmaciens. Il faut maintenant revoir le mode de rémunération des médecins afin de le lier à l'atteinte de résultats. L'objectif est clair. On veut que les médecins soient disponibles quand les patients en ont besoin. Des changements s'imposent. Un message du gouvernement du Québec.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Donat, Saint-Charles-Borromée, Saint-Lin-Laurentide, Mandeville.
CFNJ 99.1-88.9.
Des chansons américaines, on n'en joue pas parce que chaque petit geste est important.
La Naudière PM. Immobilier.
16h17 minutes, le maire Guillaume Tremblay de Mascouche a présenté aujourd'hui le bilan annuel de son administration devant la Chambre de commerce des Moulins. Il a entre autres expliqué que la ville devra piger dans ses surplus pour réaliser ses projets de développement. Notre collègue Régent Turgeon s'est entretenu avec lui.
Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, conférence annuelle devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Pourquoi c'est important pour vous d'être là?
Bien, écoutez, c'est un moment annuel qui nous permet de rencontrer notre monde, de rencontrer nos gens d'affaires, de rencontrer les organismes communautaires, de rencontrer les gens institutionnels pour un peu mettre le pied de ce qui a été fait, mais aussi vers où on s'en va au cours des prochaines années.
Bien, justement, parlons-en de cette vision-là. Vous avez dit que pour faire du développement, bien, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Est-ce que Mascouche a les moyens de ses ambitions?
Bien, écoutez, moi, je pense que oui. Cette vision de développement économique qui a été mise au cours des dernières années, bien, elle a porté fruit. Cette année, la ville de Mascouche, c'est 17,1 millions de surplus. Pour l'année 2024, il faut savoir, par exemple, c'est pas des revenus récurrents. Donc, c'est la vente des terrains de l'aéroport. C'est il y a beaucoup de taxes de mutation à l'intérieur de tout ça. Maintenant, on a partagé cette richesse collective. On aurait pu, bien honnêtement, la prendre puis dire, on va donner une réduction de taxes à tout le monde. Je pense pas que ça serait très responsable de notre part comme gestionnaire municipal. Donc, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris cette somme-là et les mettre dans des fonds dédiés. Un qui va être sur des fonds pour des projets particuliers, des projets spéciaux et acquisition de terrain. Donc, 12,2 millions qui vont être investis à l'intérieur de ce fonds-là pour des projets spéciaux et l'acquisition de terrain.
Vous avez quand même fait remarquer qu'on est dans un contexte global d'incertitude avec nos voisins du Sud. Comment on doit voir ça?
Il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut être prévoyant. Il faut pas dépenser grandement. Faut gérer un peu comme on gère nos portefeuilles privés. Je pense que quand on a la chance d'être nommé par la population pour gérer des fonds publics, mais il faut le faire de façon préventive. Et c'est de cette façon-là que je gère les fonds de la ville de Mascouche depuis X nombre d'années avec mon équipe.
Vous parlez de fonds publics, ça nous amène à parler de fiscalité municipale. Comme président de l'UMQ, vous avez annoncé une série de consultations dans ce domaine-là. Vos attentes par rapport à ça?
Bien, écoutez, on a approché deux sommités, Monique Jérôme Forget et Nicolas Marceau, qui vont faire la tournée des caucus de l'Union des municipalités du Québec, qui vont faire la tournée du Québec aussi. Et l'objectif, c'est d'aller chercher des nouvelles façons de faire la fiscalité municipale. Parce qu'il y a 100 ans, on parlait extrêmement beaucoup, par exemple, de nid de poule. On parlait de réalité des incendies. Mais aujourd'hui, les responsabilités municipales ont tellement explosé, que ce soit le logement, que ce soit l'itinérance. Donc, c'est tous des dossiers qu'on n'avait pas à faire, mais avec le même budget pour en faire plus, c'est rendu inapplicable. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec de revoir nos façons de faire les choses. Cependant, on va avoir deux sommités, deux anciens ministres des Finances qui vont nous accompagner là-dedans, puis qu'on va bien sûr avoir un rapport final qu'on va partager avec le gouvernement en place, mais aussi avec les partis d'opposition, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir une élection dans un avenir rapproché, et on veut mettre ça au jeu, bien sûr, pour la prochaine campagne électorale provinciale.
Dans l'intervalle, il reste que plusieurs municipalités, enfin la plupart, ont des défis, notamment au niveau des infrastructures et du logement. Et ça risque de les rattraper si on n'investit pas là-dedans.
Tout à fait. Et il y a même une étude de l'UMQ qui a sorti qu'il y a 36 000 logements présentement qui sont en attente de construction au Québec parce qu'il n'y a pas des infrastructures devant. Donc, c'est-à-dire un terrain qui est zoné pour pouvoir faire du logement, du condo, pour pouvoir habiter des gens, mais l'eau n'est pas en avant de ce terrain-là. Donc, vous allez comprendre que c'est 36 000 portes qu'on pourrait construire demain matin s'il y avait assez de financement de la part du gouvernement provincial et fédéral pour aller de l'avant avec de remettre en état nos infrastructures municipales.
Dans l'intervalle, vous l'avez souligné, vous avez été assez direct à ce sujet-là. Mascouche est en effervescence. Développement économique a été assuré en bonne partie ces dernières années par le Centre au Parc. Mais là, vous aviez d'autres visées. On parle de futurs pôles industriels. On a déjà ciblé des endroits pour ça.
Il y a un terrain qui peut partir demain matin. Donc, c'est pas rien. C'est un terrain, les services. L'année dernière, la ville a été super prévoyante, selon moi. On a travaillé justement pour mettre à jour nos infrastructures dans le secteur de l'avenue de la gare. Donc, c'est 10 millions qui ont été investis. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un autre, environ 1 million de pieds carrés. C'est l'ancien les grosses usines de tuyaux de ciment qui peut partir demain matin, construction dès demain matin pour d'autres projets industriels.
On parle d'un projet qui remonte à 2-3 années maintenant, qui a beaucoup fait jaser et que vous aviez piloté, je pense, de façon adéquate, mais qui n'a peut-être pas donné les résultats escomptés. Le domaine seigneurial, M. Tremblay, à moitié complété. On est où avec ça?
Bien, si on recule de plusieurs années, la Ville avait fait l'acquisition du terrain, avait fait l'acquisition des bâtiments. Je pense qu'on avait fait notre rôle. Dans notre optique, on se disait bien, il va y avoir une participation importante de la part du gouvernement fédéral et provincial parce qu'on avait fait l'acquisition de ce terrain-là et des bâtiments. Clairement, on voit aujourd'hui qu'il n'y a aucun investissement qui vient de la part du gouvernement du Québec, du Canada. Je suis pas le genre de baisser les bras loin de là. Donc, on a pris l'engagement de le faire nous-mêmes. Donc, avec les surplus de 17,1 millions que je vous parlais tantôt, on va injecter 5 millions à l'intérieur de ce projet-là, qui va être un projet complètement municipal. On va s'en occuper, comme j'ai dit tantôt, en taquinerie, mais il n'y aura aucun drapeau du Québec puis du Canada, parce que ça va être une fierté mascouchoise. Et à terme, ça va être une fierté collective pour la population.
Est-ce qu'il y a pas un petit peu d'amertume de votre part face, justement, à l'inaction du fédéral et du provincial, sur lequel on misait quand même beaucoup, ne serait-ce que pour protéger les bâtiments historiques?
Je vous ai dit dans mon discours que j'avais la pilule, donc ça ne me tente pas de revenir en arrière, j'aime mieux regarder en avant. Puis si jamais il y a de l'argent qui vient de la part du gouvernement du Québec puis du Canada, ben, on va être comptable, on va être prêt à en mettre un drapeau, mais là, pour le moment, on se concentre pour avoir un projet municipal à la grandeur que Matico est capable de se payer.
On est déjà en train de mettre la table pour un nouveau mandat à l'Hôtel de Ville, là, M. Tremblay?
On s'est déjà annoncé que je me représentais, mais il faut être clair. Vous savez, une ville, c'est au-delà des élections. Hein. Une ville, c'est faut donner des orientations. Il faut que les employés... c'est pas parce qu'il y a une année électorale que nos employés travaillent plus loin de là. Donc, les orientations sont données. Maintenant, ça va être à la population de décider si oui ou non il y a encore confiance en notre vision et en notre travail.
M. Tremblay, un gros merci.
Merci à vous.
Lanaudière PM, culturel.
Eh bien, le Parc des cultures Bernard Landry à Saint-Jacques va vibrer du 13 au 17 août 2025 au rythme des 20 ans des fêtes gourmandes. C'est comme si c'était hier, il me semble, la première édition. Déjà 20 ans, on a lancé la programmation ce matin et j'ai rencontré la directrice générale Eliane Neveu et Alexandre Turcotte, qui est initiateur de Projet Barbecue. Lui, il est porte-parole de l'événement pour une deuxième année consécutive. Vous allez essayer de me dresser là, rapidement là, les nouveautés pour cette année. C'est quand même le 20e anniversaire, c'est pas rien.
Oui, c'est le 20e anniversaire. Comme nouveauté, on ajoute le mercredi soir un spectacle. À 20h, on va recevoir la grand-messe sur la scène Chaluoto. Donc, c'est un spécial pour dire merci aux Jacobines et Jacobins de leur accueil pendant 20 ans. Mais évidemment, le grand public est invité aussi sur le site à se joindre à nous pour les festivités. Comme nouveauté aussi, on a une zone de restauration, donc des camions de rue, des bars, ainsi qu'évidemment cafés, smoothies et tout ça qui seront accessibles en tout temps, toute la fin de semaine, donc gratuitement. Vous pourrez profiter de l'ambiance et goûter les fêtes gourmandes sans débourser le frais d'entrée.
C'est la touche festive d'Éliane Neveu.
C'est la touche festive d'Éliane Neveu, oui, tout à fait. Pour que les gens puissent venir souvent goûter à tout et tout ça aux camions de rue, goûter toutes les bières alchimistes, déguster, découvrir, puis après ça, bien, vous revenez le lendemain en famille, puis vous rentrez sur le site officiellement. Donc, pour que les gens puissent pouvoir profiter à fond des 5 jours des fêtes gourmandes de notre présence à Saint-Jacques.
Je reviens à vous dans un instant. Oui. Monsieur Turcotte, oui. C'est pas votre première expérience comme porte-parole ici, là.
Non, c'est la deuxième année en ligne. Ça fait 4 ans que je suis impliqué dans le festival. J'ai animé une scène pendant 2 ans. J'ai été porte-parole l'année passée. Je suis tellement attachant qu'on m'a repris cette année. Donc, c'est un honneur, mais en même temps, une mission de faire rayonner tous les artisans locaux de la Nodière, de partout au Québec. Évidemment, de faire de cet événement-là un événement inoubliable, puis que les gens viennent et aient une expérience incroyable.
Pour vous, qu'est-ce qui distingue les fêtes gourmandes des autres événements?
Bien, pour m'être promené dans plusieurs festivals, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'artisans. Je pense que la force du site aussi est vraiment à prendre en considération. C'est un site qui est génial. Comme Eliane disait, c'est séparé cette année en deux sections avec l'espace resto gâteaux et bières et tout. Puis vraiment les exposants, les scènes culinaires de l'autre côté, le spectacle, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment un festival qu'on vit, qu'on peut vivre de différentes façons, là, qu'on peut vivre vraiment familial, mais qu'on peut aussi vivre entre amis, venez passer une belle soirée, venez faire un beau trip de gang. Fait que c'est vraiment un site qui est propice à ça, mais en même temps, c'est les artisans derrière, c'est tout ça. Fait que c'est vraiment un festival qui est unique, là.
50 exposants, ça vous satisfait?
Oui, ben en fait, on dit 50 parce que on va en avoir plus que ça, là, mais oui, on va avoir... oui, en effet, puis moi, en fait, ce qui est important, c'est de se renouveler puis d'avoir de la nouveauté sur le site. Puis cette année, on a beaucoup de nouveautés sur le site comme exposants agroalimentaires, donc on est très content de mettre de l'avant des petits producteurs transformateurs du coin et du Québec en entier à l'avant-plan.
On a parlé à beaucoup de festivals au cours des derniers jours parce que, Bon, c'est la période. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est de plus en plus difficile depuis la pandémie d'aller chercher des subsides, des argents du gouvernement. De votre côté, comment ça va?
Oui, tout à fait. Ben ça, c'est vrai, hein, parce que les temps sont assez durs pour tout le monde, je vous dirais. C'est pas mal la norme. En effet, mais nous, on essaie de se renouveler puis d'aller chercher des nouveaux partenariats et tout ça. Mais pour le financement aussi, évidemment, on continue de travailler fort puis on entretient nos relations puis nos partenariats, donc on est soutenu de ce côté-là là, par les élus et tout ça. Là, ça va quand même bien.
Lors du point de presse, j'ai entendu quelqu'un dire c'est quand on voit des produits de la Naudière dans les grands réseaux, dans les grands médias, oui, ça nous fait toujours plaisir et on pense toujours que les fêtes gourmandes sont un peu derrière ça. Vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Oui, je suis d'accord avec cette affirmation. D'ailleurs, on a pensé peut-être justement éviter des entreprises qui ont démarré aux fêtes gourmandes puis les recevoir chez nous cette année pour qu'ils parlent de leur expérience et tout ça. Donc oui, en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on constate puis qui est réel, là.
Vous avez des orientations pour les prochaines années?
Oh non, on fait une édition à la fois, puis on fait après l'édition, on voit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut refaire, de quelle façon on veut le faire. Donc je dirais cette année, on va se concentrer vraiment sur notre 20e pour que ce soit le plus gourmand et festif possible. Puis on va voir pour la 21e édition.
Je vais vous demander à vous deux une prédiction. Combien de gens vous attendez cette année?
Oh, cette année, il va faire soleil pendant 5 jours, ça, t'es au courant de ça, hein, cher. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher notre 20 000 visiteurs cette année aux Fêtes gourmandes de la Naudière.
The Price is Right, 20 001. Je pense cette année, c'est une belle année. Il va y avoir il y a plusieurs spectacles sur plusieurs jours. Je pense que l'engouement est là. Puis je pense que le monde aussi, il y a beaucoup de festivals, mais il y a eu beaucoup de mauvais temps pendant les festivals. Puis je pense qu'il y a des gens qui adoraient le festival ici, qui ont peut-être été freinés dans les dernières années pour une journée de pluie ou des trucs comme ça. Puis cette année, justement, on a commandé le beau temps. Fait qu'on sait que le beau temps va être là. Donc, d'après moi, les gens vont être là plus que jamais. Bon, c'est le fun de découvrir ce festival-là, mais c'est le fun de le redécouvrir aussi. Puis je pense que d'année en année, on voit des visages qui sont là, qui reviennent, ça. Fait qu'on attend une belle saison cette année-là.
Il y a François Morin qui arrive en courant pour le bulletin d'information. Alors, restez là.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
40 direction Est, c'est l'an de Bourget jusqu'à la 640, un peu aussi secteur Repentigny maintenant, d'Industriel à Valmont. La 640, c'est un peu compliqué direction Ouest, surtout à partir de la montée du Dumais jusqu'à la 25 en direction Est aussi à partir de Dumais jusqu'à l'autoroute 40-25 Nord du Pont-Payé en pont de l'île Saint-Jean demeure nombreux presque jusqu'à la 125 secteur de Terrebonne. La 125 Nord, Pont-Sophie-Masson vers Terrebonne, on est au ralenti à partir d'Émile-Île et de l'autre côté presque jusqu'au chemin Saint-Denis. Marie. Et là où ça circule très bien, il n'y a pas d'enjeu présentement, c'est la 138 Est, pont Le Gardeur, vers Repentigny.
Au Québec, nous savons garder la tête froide. Surtout quand Harvey se propose des laits frappés à seulement 3 $. Crémeux, onctueux et préparés à la main avec des produits laitiers 100% canadiens. Difficile de résister. Laits frappés, boissons glacées, seulement 3 $ pendant tout l'été, chez Harvey's, votre bar à burger et plus.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partielle, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Au cours des dernières années, des changements majeurs ont été apportés pour améliorer l'accès aux soins de santé. Par exemple, en donnant plus de pouvoir aux infirmières et aux pharmaciens. Il faut maintenant revoir le mode de rémunération des médecins afin de le lier à l'atteinte de résultats. L'objectif est clair. On veut que les médecins soient disponibles quand les patients en ont besoin. Des changements s'imposent. Un message du gouvernement du Québec.
On retrouve François Morin en information. François, on attend longtemps dans les urgences des hôpitaux lannaudois.
En fait, c'est pas une grosse nouvelle en soi, si on le sait, on le vit à tous les jours, on en parle beaucoup dans l'actualité, mais il faut quand même mentionner que les deux hôpitaux lannaudois enregistrent des temps d'attente à l'urgence parmi les pires de la province. À l'hôpital Pierre-Lagardeur, on parle d'un temps moyen d'attente de 7h11 et du côté du CHDL, 6h15. Et au Québec, la moyenne, c'est de 5h23.
Donc, 2 heures de plus chez nous.
Ben, en fait, entre 1 heure et 2 heures. Mince consolation, ça a l'air que ça s'améliore du côté de Pierre-Lagardeur, nous dit Gabriel Giguère, qui est analyste senior à l'Institut économique de Montréal.
Quand on regarde pour Pierre-Lagardeur spécifiquement et qu'on compare cette année avec l'année dernière, je pense qu'il y a un élément qui est positif qu'il faut retenir spécifiquement pour cet hôpital-là, c'est qu'on est passé d'un temps médian, là, qu'on peut appeler un temps typique d'attente, de 7h53 à 7h11. Est-ce que c'est trop long? Absolument. C'est beaucoup trop long. Est-ce que c'est une amélioration? Je pense qu'il faut également le dire que c'est une amélioration, pardonnez-moi, de plus de 40 minutes quand même en une année.
On pourrait chanter « Love is in the air », mais c'est plutôt la lune de miel entre les premiers ministres canadiens.
Puis des lunes de miel, ben ça dure le temps que ça a duré. Alors, les premiers ministres s'entendent pour dire que la rencontre d'hier a été la plus productive des dernières années en raison d'un changement de ton de la part d'Ottawa à l'égard des provinces. Il y a certains qui osent même parler d'une nouvelle harmonie canadienne. L'objectif poursuivi par Mark Carney, on le sait, c'est d'en arriver à créer une seule économie d'un océan à l'autre. Il faudra évidemment attendre les résultats avant de prétendre qu'il y a certaines aspirations autonomistes de certains partis provinciaux, notamment en Alberta ou au Québec, qui sont relégués aux oubliettes. Là-dessus, notre expert politique, Mathieu Bélanger.
Présentement, c'est facile la discussion parce que on dit, ben, on veut des projets et le gouvernement fédéral dit, je vous écoute. Lorsqu'on va arriver avec une sélection de projets, déjà, le bas pourra blesser un peu plus. Lorsqu'après ça, on va l'étudier concrètement, lorsqu'on va mettre ça dans la machine législative, dans la machine des évaluations environnementales, dans la machine des consultations avec les Premières Nations, puisque ça demeure une obligation constitutionnelle, ben là aussi, il y a plein de possibilités où il y a des freins qui arrivent.
La 20e édition des Fêtes gourmandes.
Oui, le Parc des cultures Bernard Landry de Saint-Jacques qui va vibrer du 13 au 17 août au rythme de ce 20e anniversaire des Fêtes gourmandes de la Nadière, une édition anniversaire qui marque un tournant quand même majeur dans l'événement, alors qu'il y a quand même une moitié du site qui sera gratuite et accessible en tout temps. On écoute Alexandre Turcotte, qui est le porte-parole des Fêtes gourmandes pour une deuxième année.
Ben pour m'être promené dans plusieurs festivals, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'artisans. Je pense que la force du site aussi est vraiment à prendre en considération. C'est un site qui est génial. C'est séparé cette année en deux sections avec l'espace resto et bière et tout. Puis vraiment les exposants, les scènes culinaires de l'autre côté, le spectacle, tout ça.
Entente en matière de sécurité civile à Terrebonne.
La ville de Terrebonne qui paraffe effectivement une entente de 5 ans avec l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. En s'associant avec la QBRS, Terrebonne améliore son soutien à la population, notamment avec une aide à l'évacuation lors d'événements critiques, un encadrement de bénévoles durant les situations d'urgence et la préparation de sacs de sable en cas d'inondation pour ne nommer que ces situations. Alors l'expertise de l'association permettra aussi à la ville d'améliorer ses mécanismes de prévention, d'optimiser ses interventions d'urgence et de renforcer la logistique terrain.
François, on les voit souvent dans les parcs et dans les événements durant l'été. C'est les cadets de la SQ qui sont de retour dans la région.
Et ils seront présents partout. Alors, ils seront présents au poste principal de la MRC de Dautré à Berthierville, au poste auxiliaire de la MRC de Dautré à Saint-Gabriel-de-Brandon, de même qu'au poste secondaire de la MRC de Dautré à Lavaltrie. D'autres seront déployés au poste de la MRC Montcalm à Saint-Lin-Laurentide, au poste principal de la MRC Matawinie à Rawdon et au poste de la MRC de Joliette à Joliette. Et on va quand même rappeler que les cadets assurent, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs, ça tu viens de le dire, et ils vont répondre aux demandes de renseignement des citoyens et bonifier le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Et compte tenu que ce sont des cadets, bien évidemment, ils n'ont pas le droit d'intervenir comme des policiers. Ce sont des étudiants en technique policière là, à l'École nationale de police à Nicolet.
On les voit souvent à vélo, d'ailleurs.
On les voit souvent à vélo, on les voit à pied, et, des gens très, très présents et ouverts, justement, à répondre aux questions des citoyens.
Voilà.
Ça complète d'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9-CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM. Loisirs.
Il est 16h38. Inaugurée en grande pompe en 2024, la base nautique de l'île annexe à Repentigny pourrait bien attirer encore plus d'amateurs de plein air cet été. C'est la prétention du directeur général de l'organisme Récréo Nature qui gère le site, son nom Michel Bourgard, à qui Régent Turgeon a parlé.
M. Bourgard, d'entrée de jeu, peut-être nous rappeler la mission de votre organisation.
Alors, nous, on est mandaté, on est un organisme à but non lucratif, mais on est mandaté par la ville pour s'occuper des grands parcs, si on peut dire, dont le parc de l'Île-Belle, dont, entre autres, le parc Saint-Laurent, avec toute la portion de plage urbaine, de rampe de mise à l'eau, de navettes qui relient, en fait, Repentigny, Varennes, Pointe-aux-Trembles, et on s'occupe aussi des sentiers de la Presqu'île depuis quelques années.
2024, M. Beauregard, lancement en grande pompe, on ne se le cachera pas, la base nautique à l'île annexe avec l'idée sous-jacente de mettre le fleuve Saint-Laurent bien en évidence à des fins de récréation. On garde la même approche cette année?
Oui, absolument, avec des modifications toutefois pour rendre ça encore plus accessible. L'an passé, c'était une année, comme on dit, je veux pas dire de test, mais quand même une année d'opération qui demandait de mettre en fait toutes nos connaissances à profit. Mais on en a acquis quand même beaucoup. Vous savez, l'île annexe, c'est la base nautique, ça s'inscrit dans un grand programme de démocratisation du fleuve, on va dire ça comme ça, et beaucoup de municipalités à partir de Berthier jusqu'à Terrebonne se sont inscrits dans ce projet-là. Alors oui, cette année, on revient avec une programmation. On va même, je vous dirais, on va opérer sur la base de 7 jours semaine. L'an passé, on était 4 jours. Cette année, ce sera 7 jours. Alors, on a développé un forfait découverte et un forfait aventure qui du lundi au mercredi, permet aux gens juste d'aller sur l'île. D'aller sur l'île pour marcher, d'aller sur l'île pour observer les oiseaux, la faune, observer toute la végétation riveraine. Non, on est pas mal gâtés, puis on pense que ça va bien répondre à la clientèle qu'on a, qui a de l'intérêt, en fait, pour le fleuve.
La tarification était un enjeu majeur là, en 2024.
Oui, on a déterminé, évidemment, on vérifie auprès des autres, hein, des autres produits qui sont sur le marché par rapport à ça. Je pense qu'on a une tarification très avantageuse sur une approche touristique. C'est sûr que l'île a été acquise en partie par Récréo Nature, mais de l'autre côté, on a des frais. On aimerait ça que ça soit gratuit comme un parc, mais on a un bateau, on a un pilote, on a de la surveillance, donc on n'a pas le choix d'avoir des frais. Donc, il y a des frais qui sont établis sur une base des gens qui viennent de l'extérieur de Repentigny, mais il y a une tarification spéciale pour les résidents, ce qui fait que ça abaisse le coût et ça donne une accessibilité encore plus grande pour les citoyens qui participent finalement via la ville au financement de Récréo Nature Repentigny.
Il y a du côté de Terrebonne un organisme qui s'appelle le Groupe Planaire Terrebonne. Est-ce qu'on pourrait envisager des collaborations avec eux?
Oui, on a déjà des collaborations avec le directeur général, entre autres, là-bas, Pierre Bégin, qui a travaillé ici à Recro Nature, donc on se connaît très bien. Lui aussi s'inscrit dans le grand programme que je vous mentionnais là, par rapport au fleuve. Oui, déjà, il y a des kayakistes qui viennent de Terrebonne, qui viennent à Lille. Il y aura encore deux ou trois occasions durant l'été qui sont en train de s'organiser. De notre côté, nous, on va aller du côté de Saint-Sulpice avec des gens de Repentigny qui vont vouloir s'inscrire. Puis, à terme, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'éventuellement, on en a discuté déjà avec la direction là-bas à GEPAT, d'avoir une tarification qui fait qu'il y aura un avantage aux clients qui sont au groupe Planète Terrebonne ou à nos clients qui sont chez nous, vice-versa, en fait, vers Terrebonne. Donc, on est en train de discuter de ça, puis ça sera pas pour cette année, mais c'est dans les, comme on dit, c'est dans les cartons.
L'impact de tout ça, là, sur le tourisme de M. Beauregard, on le voit, on le sent?
Oui, définitivement. Vous savez, on est quand même à proximité de Montréal, hein. On est dans un bassin d'à peu près 400 000 personnes. Bon, on sait, Repentigny, c'est un peu moins de 100 000 habitants, mais de l'autre côté, tout le bassin de population qui nous entoure fait en sorte qu'il y a un grand intérêt. Je vous dirais, pour les touristes, nous, on parle surtout d'excursionnistes, mais il y a quand même des gens qui viennent à Montréal sur la base d'un congrès, qui ont des fois 3 ou 4 jours supplémentaires à utiliser, à la découverte. Alors nous, ça s'inscrit bien là-dedans parce que ça permet de découvrir le fleuve, de voir des choses, parce que souvent, on sait qu'en Europe, les fleuves sont pas nécessairement la même dimension, la même importance qu'on peut avoir ici. Alors ça permet aux gens de découvrir un environnement exceptionnel.
Ouverture de la saison bientôt?
Oui, mais en fait, on serait prêt à ouvrir. C'est la température de l'eau qui nous préoccupe, parce que ça fait partie des... Je veux dire des risques, mais en fait, on encadre nos gens, il n'y a pas de risque important, mais il y en a un pour moi, si tu tombes à l'eau puis l'eau est à 12 degrés, non, c'est pas des conditions qu'on souhaite faire vivre à nos gens pour qu'ils se rappellent de la belle expérience qu'ils m'ont passée sur le fleuve.
Je suis un père de famille, j'ai 2 enfants, je les ai amenés à l'île annexe avec mon épouse. Je dois consulter un site web pour savoir comment ça va me coûter. Il est possible de le faire.
Absolument. Les gens peuvent passer par recronature-repentigny.com. Vous allez retrouver tous les détails par rapport à l'ensemble des activités que nous avons. Il y a des sites, je dirais, plus satellites qui vont donner une information plus précise sur certaines activités, mais la base, si vous passez par recronature.com, recronature-repentigny.com, ça permet d'avoir accès à tous ces micro-sites-là et justement d'avoir les tarifications et tout ça. Là. On peut réserver en ligne aussi, évidemment.
Il est 16h43, au retour de la pause, tout juste de l'autre côté du bloc publicitaire, on parle avec le vieux frère, Jacques Plante.
C'est la vente du 10e anniversaire chez Alimentation au Croc. Les 6, 7 et 8 juin, profitez de rabais sur presque tout en magasin. Représentant sur place pour vous conseiller. 2 adresses pour mieux vous servir. Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Jean-de-Mata. Détails sur notre page Facebook.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez ma tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
99.1 CFNJ. À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bon mardi, Jacques Plante.
Michel Lanois, bonjour. Mesdames, messieurs qui nous écoutent, bonjour.
Je me suis permis de vous appeler vieux frère. C'est des... C'est des particularités entre nous.
Oui, mais on est parents sur un bout de temps.
Et je vous regarde, je trouve que vous avez une face à manger un hamburger de ma tante Toulotte.
Ça m'interpelle, ça. Permettez-moi de saluer. J'ai vu qu'on a une nouvelle personne à l'aiguillage. Il engage des vieux.
soyez indulgents, mesdames, messieurs.
Non, mais c'est correct.
Il faut le mentionner. Là, c'est la première fois que je fais moi-même la technique. Alors, jusqu'ici, ça va. C'est pas trop compliqué.
Non,
j'ai un ou deux boutons à retenir.
C'est
mieux que durant mon adolescence. Oui, voilà.
C'était de pogner le bon bouton, par exemple.
Bon, OK. En effet. Bon, trêve de bavardage, comme dirait l'autre.
Oui.
François Legault est arrivé avec ses collègues ministres des autres provinces avec des listes d'épiceries. Chacun y allait de sa liste d'épiceries auprès de Mark Carney. Et j'ai eu le goût. Parmi la liste d'épiceries, il voulait la construction d'une ligne de transport d'électricité entre Québec et Terre-Neuve. Et Labrador au coût de 7 milliards. Tous les ministres ou les premiers ministres miroitent, voient de l'argent là, derrière les propos de Mark Carney.
Oui, puis M. Legault a de quoi être fier parce que Carney n'a pas fermé la porte.
Absolument. Hein? Alors, moi, je me suis dit, pourquoi pas demander à Jacques Plante quelle serait ta liste pour Mark Carney.
Et moi, écoute, de toute façon, je me permets de faire ce commentaire-là, c'est que là, à l'unisson, tout le monde se tapait ses fesses, là, tout le monde s'aime, hein? Tout le monde s'aime. Là, il va falloir que Carney fasse un tri dans cette liste-là. Il va y avoir de la frustration à l'interne. C'est à peu près sûr, tu sais. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les gens, mais il reste à voir. J'ai regardé ça, et je me suis dit, oui, ma liste, puis c'est drôlement tombé aujourd'hui, on a déposé à la Chambre des communes à Ottawa le projet de loi C2.
OK.
Projet de loi C2 qui veut renforcer la sécurité à la frontière. D'abord, le fameux fentanyl sur lequel Donald Trump a joué pour faire un décret.
Il en passe, selon bien les experts, il en passe très peu.
Très peu, mais moi, je trouve que d'y mettre le paquet, d'outiller les gens aux douanes, d'être aussi poli que les douaniers américains. Tu sais, quand tu passes aux douanes américaines, là, t'as affaire à pas faire trop de gags.
Parce que absolument.
Tu vas te faire fouiller dans les hémorroïdes puis jusqu'aux amygdales.
Ils sont pas là pour faire des blagues.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Alors, qu'on ait ça, qu'on puisse utiliser et outiller nos agents correctionnels. C'est parce que là, il y a de quoi
ça,
aussi qui se fait au niveau des prisons à Québec. Là. Il y a de l'argent de sortie de Bonnardel aujourd'hui. Ça aussi, c'est une pas méchante idée de donner des outils à ces gens-là. On dirait que les gouvernements comprennent à un moment donné. Je sais pas ce qui se passe, là. Si c'est l'été ou quoi que ce soit. Mais surtout, ce projet de loi-là, Michel, moi, parce que c'est aussi non seulement la drogue, mais les véhicules volés qui passent aux lignes, qui s'en vont ailleurs. Là, ils vont avoir des détecteurs. Ils vont avoir aussi le droit d'aller fouiller dans les containers.
On peut pas être contre la vertu, là.
Exactement.
Jusque-là, c'est très bien. Ouais.
Et ma commande à M. Carney, ça serait aussi porter une attention particulière au triangle d'Akwesasne.
Oui, vous en demandez beaucoup, là.
Ben, c'est ça. C'est que ce soit la police de l'Ontario, que ce soit la police américaine, parce que le triangle d'Akwesasne, n'oubliez pas, là, réserve indienne, d'un côté, c'est l'Ontario, de l'autre côté, c'est les États-Unis, puis d'un autre côté, c'est le Québec.
Ils n'ont pas toujours eu peur, un peu, d'aller dans ce coin-là?
Ben, c'est ça.
Ma question est là.
Oui, ben c'est ça. L'intervention se fait sur la pointe des pieds. Et souvent, ce sont les peacekeepers qui ont dit « c'est nous qui avons ». Mais là, on devrait équiper au moins nos policiers. Parce que si on laisse tomber les barrières entre le Québec et l'Ontario, il devrait y avoir, entre la police provinciale d'Ontario et la Sûreté du Québec, une certaine collaboration. Même chose du côté des États-Unis, avec les policiers de l'autre côté et les peacekeepers. Puis pourquoi pas la GRC non plus. Alors, parce que il en rentre des armes à feu, puis de la drogue, puis de l'immigration.
Pensez-vous que c'est majoritairement l'endroit où ça passe?
Ben, je pense que le trou actuellement là, qui existe, là, même si Trump nous a dit qu'il y en avait plein du long de la frontière, celui-là, c'est un beau.
Oui.
Hein? De tout ce qu'on a vu là, dans la littérature et tout ça. Les autres, c'est assez spécial, ça coûte pas cher. Mais ça implique le métier dans lequel on travaille, Michel, le CRTC. Moi, je demanderais au premier ministre du Canada de nommer au CRTC des gens intelligents, des gens qui sont capables de prendre des décisions et de les assumer. Eux, même s'ils sont là, c'est un genre de tribunal administratif, le CRTC.
Mais pourquoi ne pas exclure le Québec du CRTC, créer un CRTC québécois?
Oh, ça pourrait être fait aussi, mais là, pour l'instant, tout le monde s'embrasse, là. Toutes les provinces, tu les as vues, là, en meeting.
Oui,
tout le monde s'aime.
Ah, oui,
c'est le temps.
C'est dire qu'il jouera à bouteille avant la fin de la soirée.
Je suis à peu près sûr que ça fait des choses en coulisses, là. On sait pas ce qu'ils ont mangé après. Mais, tu sais, ce que je veux mentionner avec le CRTC, c'est que le CRTC est là pour appliquer. Puis, la phrase, écoutez-la bien, les amis, là. Nous sommes résolus à veiller à ce que les Canadiens aient accès à un système de communication de classe mondiale qui encourage l'innovation et enrichit leur qualité de vie. Et on sait très bien, on va juste rester au Québec, qu'il y a encore des gens qui ont de l'Internet à pédale.
Ah oui, oui. Dans certains secteurs, là, c'est douloureux, comme dirait l'autre.
Donc, qu'il y a des gens capables de prendre des décisions puis d'assumer les politiques que le gouvernement leur donne. Mais donnez-le des armes. Ils n'ont aucun pouvoir coercitif. Puis ce qui arrive de l'extérieur, le faites donc comme Trump, les Facebook de ce monde, les TikTok, les Moineaux, là, X, là. Tu sais, allez en chercher de l'argent là-dessus ou vous les sortez carrément, vous coupez les ondes et cet argent-là récupéré.
Non seulement ils vont pas en chercher, ils en dépensent là-dessus.
Ben oui, ils font de la publicité là-dessus, exactement.
C'est extraordinaire.
C'est la vertu, ça. Et d'investir cet argent-là dans nos stations de radio et de télévision au Canada.
Pourquoi pas? Hein?
Pourquoi pas?
Hein? La radio locale, ça n'a jamais fait mal?
Ça n'a jamais fait mal. Puis au niveau du système des nouvelles, c'est drôlement important. Et la dernière chose, ça, c'est un vœu pieux, je le sais, c'est de retirer le droit et l'immunité parlementaire aux députés. Fait que ceux qui nous foutent la merde et qui dépensent nos deniers sans compter, bien qu'ils soient imputables même à la sortie de la Chambre des communes.
Oh, ça, c'est un rêve.
C'est un rêve. Mais peut-être un jour, ça va arriver, Michel.
Jacques Plante, merci énormément. On se retrouve jeudi.
Voilà.
Merci.
Salut.
Lanaudière PM, technologie.
Une nouvelle technologie en matière d'intelligence artificielle est maintenant disponible pour les producteurs agricoles de Lanaudière. L'entreprise s'appelle Floratrack. Elle s'est rendue au CERF Point du jour à l'Assomption pour faire la démonstration de lunettes. Et tenez-vous bien, les lunettes sont conçues pour transformer le dépistage de parasites, de virus ou autres problèmes. Régent Turgeon a rencontré le président Daniel Lirette et Hugo Dupuis, qui est le directeur des programmes d'accélération de l'organisation. Écoutez ça, c'est assez intéressant.
Monsieur Lirette, peut-être d'entre vous nous parler de votre entreprise, son profil. Ça vient d'où, c'est quoi?
Oui, ça fait que nous, moi je viens du Nouveau-Brunswick, basé à Chilliac. Ça fait que notre compagnie, on aide avec les serres, les maraîchers, pour tout le monde avec l'identification des problèmes. Puis aussi, c'est une paire de lunettes qui aide avec ce qu'on peut juste parler, on peut dire des problèmes, comme qu'on parlerait à quelqu'un d'autre. Puis toutes ces notes-là vont dans un système automatique sur l'Internet que là, dans le futur, on peut garder, voir des rapports, puis tout ce qui se passe dans la serre.
On dit que c'est un outil intelligent pour transformer le dépistage, la traçabilité, la prise de décision dans les serres. Ce n'est pas de l'infrarouge, là. C'est de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de lumière rouge, c'est toute l'intelligence artificielle avec des caméras. Ça fait que nos lunettes, ça marche, mais tu peux aussi utiliser ton téléphone, une tablette, n'importe quoi pour prendre ces photos puis les donner comme ça.
Alors, on a vu une démonstration cet après-midi. Votre collègue s'est promené avec les fameuses lunettes là, dans les plants de tomates. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? Qu'est-ce que ça donnait concrètement? Là?
Oui, c'est ça. Ça fait que mon collègue Maxime, ça passait dans les rangées d'une serre de tomates. Puis là, il y avait des lunettes. Il pouvait dire des commandes comme « prends une photo »,« prends un log de l'information que j'ai vu un problème »,« il y a un tuyau de brisé », et n'importe quoi comme ça. Il pouvait voir des rapports aussi qui disaient l'information spécifique à qu'est-ce qui se passait dans la serre. Il y avait-tu des certains insectes, il y avait-tu d'autres problèmes? Il pouvait voir des rapports là direct dans ses lunettes.
Il n'y a aucune autre technologie qui s'apparenterait à ça. C'est vraiment un produit original là, conçu pour la zone Agtech.
Oui, maintenant, on est les premiers dans l'agriculture à faire des lunettes qui appellent le AR, le Augmented Reality. Ça fait que nous, c'est pas une vision, c'est pas d'un autre monde. T'es quand même en place, puis juste c'est comme un écran dans tes lunettes, puis tu vois qu'est-ce qui se passe.
Et là, ce produit-là, il est déjà sur le marché. Vous l'avez expérimenté ailleurs. C'est un produit commercial. On s'attend à quoi, justement, de cette visite-là à l'Assomption maintenant?
Oui, mais ça aujourd'hui, c'était le premier lancement officiel des lunettes. On a déjà des ordres, des paires qui sont vendues au Colombie-Britannique, au Mexique. Puis ça commence avec, il y a beaucoup d'intérêt pour les lunettes maintenant. Parce que c'est une technologie qui aide beaucoup avec les producteurs pour avoir l'information qu'ils ont besoin dans la serre.
Avant d'acheter cette technologie-là, on peut l'essayer?
Oui, c'est ça. Nous, on va se déplacer à vous. On travaille beaucoup au Québec. On est en Ontario, puis Colombie-Britannique, Mexique. Fait que n'importe où que vous êtes, on peut aller vous voir, puis faire une démo, vous démonter les lunettes, puis vous-même les essayer.
La croissance est bonne. On a des projections de vente là, pour les prochains mois, les prochaines années.
Oui, les projections sont bonnes. Les lunettes, ça nous aide beaucoup. Nous, quand même, on est pas mal dans les niveaux, comme qu'ils appellent, start-up. Mais là, c'est ça, avec les projections, on vise des millions dans quelques années avec les lunettes puis le programme.
Monsieur Dupuis, comment s'est faite la relation, la connexion entre la Zone Agtech et ces gens-là de Florotrack?
Alors, la Zone Agtech, en discussion avec les producteurs en serre du Québec, a vu qu'il y avait un fort enjeu à connecter les problématiques des producteurs agricoles, qui sont nombreuses, avec les solutions donc technologiques ou les nouveaux outils qui peuvent exister, et les aider à se connecter justement avec ces développeurs de technologies pour comprendre la réalité de terrain, échanger et développer des solutions qui correspondent réellement aux besoins des producteurs. Où on a identifié justement cet enjeu sur les maladies ravageurs. On a lancé un appel à solutions locales et internationales pour trouver des solutions qui répondent à cet enjeu. Okay. Et on a eu l'occasion de rencontrer l'entreprise Floratrack.
Là, c'est important justement de procéder de cette façon-là, de faire le lien entre ces entreprises et des producteurs.
C'est vraiment essentiel d'arriver en fait à connecter le monde des développeurs de technologies avec les mondes des producteurs pour que les producteurs aient l'occasion de partager leur réalité, la réalité qui dépend d'un producteur à l'autre et qui va aussi dépendre d'une zone géographique à l'autre, avec des outils différents, des équipements différents, des lumières différentes. Donc en fait, tout varie d'un producteur à l'autre. Et l'idée est maintenant de comprendre comment travaillent les producteurs et d'essayer d'adapter leurs solutions pour vraiment répondre à leurs enjeux. Et donc oui, c'est essentiel pour les producteurs de tester et de valider les solutions avant de les intégrer, parce que ça peut représenter des investissements qui sont parfois conséquents.
Ça va vraiment dans le sens de la mission de la Zone Agtech. La Zone Agtech, c'est pas juste des laboratoires, des immeubles, des champs, ce sont des technologies nouvelles dont on veut faire la promotion.
Tout à fait, c'est vraiment dans les objectifs de la Zone Agtech que d'arriver justement à contribuer à la transition agricole. Là, on est sur un cas, par exemple, sur la détection de maladies ravageurs, de potentiel de diminution de produits phytosanitaires qu'on va utiliser dans les serres, justement, pour arriver à traiter quand un besoin est détecté, donc au plus précis avec l'identification de certaines maladies ou de certains ravageurs, plutôt que d'utiliser abondamment certains produits pour traiter dans les serres.
Ce que vous aviez vu de Floratrack aujourd'hui, ça vous a convaincu de la pertinence de cette démonstration-là?
C'est un outil qui est portable et qui permet justement de s'intégrer sur le terrain sans avoir à besoin de faire de la prise de notes et qui permet d'intégrer des photos. Et c'est un outil qui aussi, en étant basé sur l'intelligence artificielle, qui va s'enrichir avec le temps, okay, avec toutes les mesures qui vont pouvoir être faites sur le terrain, avec le lien avec les agronomes qu'ils peuvent avoir, justement pour entraîner leur base de données et devenir de plus en plus efficace sur la détection de ces maladies ravageurs. Donc oui, je dirais que c'est très prometteur pour l'avenir et c'est un enjeu important d'arriver à les détecter via ces images.
C'est ce qui complète le menu pour aujourd'hui. On remercie Daniel Lirette et Hugo Dupuis qui viennent de nous parler de chez Floratrack. Merci également à Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, était avec nous. Éliane Deveux, Alexandre Turcotte pour les fêtes gourmandes. Également, Michel Bourgard de Récréo Nature. Merci également à François Morin à l'information, à Régent Turgeon, Nicolas Bellemare, Claude Fournel, Pierre Jubainville qui fait son retour et on est heureux de le retrouver. Ici Michel Arnois qui vous donne rendez-vous demain à 16h.